le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout, agréable condition d'écoute et programme de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies. Les titres d'abord, remise au mercredi dernier de la base de la MONUSCO Kamanyola Sud-Kivu au gouvernement congolais, c'est dans le cadre du processus de désengagement de la mission onusienne dans cette province. Résurgence des cas de rougeole dans le Congo central, plus de 2000 cas sont notifiés dans 25 zones de santé sur les 31 qui comptent cette province. L'Organisation mondiale de la santé via son sous-bureau du Congo central indique que toutes les batteries sont mises en marche pour organiser une campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois. François Migabo Papi, chef du groupement de Kacheni à Kamanyola, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous commençons cette page d'actualité au Sud Kivu avec la remise en mercredi de la base de la MONUSCO Kamanyola au gouvernement congolais. Ceci s'inscrit dans le cadre du processus de désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Une délégation des Nations Unies du gouvernement congolais, conduite par la chef de la MONUSCO et le gouverneur ad intérim, était sur place à Kamanyola, dans le territoire de Walungu pour la circonstance. C'est un reportage signé Rachel Kisembangu.
C'est aujourd'hui que la MONUSCO remet sa base jusque-là occupée par les casques bleus pakistanais. La MONUSCO est présente dans la cité de Kamanyola depuis 19 ans. Et cela à travers les contingents pakistanais et indonésiens pour la protection des civils. Cette base est constituée des maisons préfabriquées, d'une usine d'eau, des lits, des équipements et d'autres matériels. Y ont pris part Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago, le commissaire général adjoint en charge de l'appui et gestion de la PNC, général Bosco Kalinga, et bien d'autres autorités provinciales et onusiennes. Ce camp sera occupé dorénavant par les unités d'intervention de la PNC pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette remise intervient dans le cadre du désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. De Kamanyola, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
En rapport avec cette cérémonie, la population de Kamanyola dit prendre acte du désengagement de la MONUSCO de leur contrée. Le chef de groupement de Kamanyola reconnaît la bonne collaboration qu'il y a eu entre les casques bleus et la population locale. François Migabo est au micro de Rachel Kisembangu.
Je dirais que la cohabitation a été vraiment très étroite, elle a été très bonne. Nous avions bien collaboré vraiment avec les contingents, que ce soit les Pakistanais ou les Indonésiens. Nous avions bien collaboré avec eux. Mais aujourd'hui, nous assistons tous à la cérémonie de la fermeture de la base de la MONUSCO Kamanyola. Nous espérons qu'avec nos services avec qui ils ont fait la remise, ils vont bien aussi faire leur mission. Nous espérons qu'ils vont travailler pour le compte de la population tel qu'ils le faisaient aussi les partenaires de la MONUSCO. Personnellement, j'ai été fier de notre collaboration avec les contingents qui étaient basés au niveau de Kamanyola.
Direction le Congo central, résurgence des cas de rougeole dans cette province. Plus de 2000 cas ont été notifiés dans 25 zones de santé sur les 31 que compte la province et plus de 200 cas sont enregistrés chaque semaine. Dr Luc Chabungu, chef du sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS au Congo central, qui livre l'information, indique que toutes les batteries sont mises en marche pour organiser une campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois. Il invite les parents à suivre de près les orientations qui seront données pour cette campagne. Il les exhorte également à amener dans le centre de santé tout enfant présentant la fièvre avec éruption cutanée. Dr Luc Chabungu, dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambo.
Actuellement, il y a 25 zones de santé sur les 31 qui sont touchées par des cas de rougeole et il y a 10 zones qui sont plus touchées. 10 zones qui concentrent à elles seules près de 80% des cas de la rougeole de la province. Il n'y a pas vraiment des cas de décès, heureusement pour nous. Mais sur le plan de la riposte, il est prévu une campagne de vaccination qui pourrait démarrer dans une semaine, qui va associer les vaccins contre la rougeole et les vaccins contre la fièvre jaune. Parce que nous avons aussi des cas de fièvre jaune. Il y a les zones les plus touchées qui auront à organiser les deux campagnes en même temps. Il s'agit de Kipangu et de Ngombe Matadi. Pour la population, c'est de suivre les instructions, les orientations qui seront données par les responsables de la santé de leurs entités pour amener les enfants à la vaccination. Pour la rougeole, c'est tout cas qui présente une fièvre avec une éruption cutanée. Il faut déjà, a priori, amener ces enfants-là au niveau des centres de santé.
Et qu'à Perlitouri, les violences attribuées aux groupes armés ont causé la mort d'au moins 68 civils. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad, rapport publié mardi dernier. Dans ce document, cette agence de l'ONU indique que les tensions intercommunautaires, ainsi que celles des conflits fonciers et luttes pour le contrôle des ressources minières, sont parmi les causes des crises en Ituri. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Le contexte sécuritaire est marqué par une récrudescence des incidents de violence par les groupes armés. Plusieurs cas de meurtres de civils, mouvements de population et autres incidents de protection ont été rapportés. Selon Ocha, qui cite le responsable de la société civile, depuis le 1er janvier, des attaques impliquant des groupes armés ont déjà coûté la vie à au moins 60 civils. La plus récente est survenue entre le 9 et le 13 février, où au moins 17 civils ont été tués dans plusieurs attaques. Dans les territoires de Djougou et Iromou, les tensions intercommunautaires sur fond de conflits fonciers et de lutte pour le contrôle des ressources minières sont l'une des causes de la crise en Ituri, particulièrement dans la zone de santé de Damas, en territoire de Djougou, souligne l'agence onusienne. Pendant ce temps, 15 000 personnes sont retournées dans la zone des Ofay en janvier dernier à la faveur du dialogue entre les groupes armés à l'initiative des autorités territoriales. Ocha maintient le plaidoyer auprès des autorités provinciales pour le renforcement de la protection des civils, particulièrement les déplacés et retournés. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Marie Brune, coordonnatrice des urgences des Médecins Sans Frontières. Elle parle du non-respect du caractère civil des camps des déplacés dans le Nord Kivu, situation qui met en danger les populations. La coordonnatrice des urgences des Médecins Sans Frontières s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Marie Brune, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, le caractère civil des camps des déplacés n'est plus respecté autour de Goma. Pouvez-vous nous présenter la situation actuelle?
Alors oui, depuis fin janvier, on a constaté effectivement que l'insécurité était grandissante dans les camps et que le caractère civil des camps déplacés n'était pas toujours respecté. Ça c'est pour nous quelque chose qui est compliqué à gérer parce que ça impacte nos activités, comme je le disais. Donc parfois ça nous amène à suspendre nos activités ou à réduire en fait les horaires de nos cliniques. Et donc évidemment ça a un impact sur nos bénéficiaires et sur la population des déplacés. Après, c'est aussi quelque chose qui nous a été remonté par les déplacés eux-mêmes, parce que nous, on n'est pas présents la nuit, mais évidemment, eux, ils le sont. Et donc, l'insécurité est surtout grandissante la nuit et a un impact sur l'accès aux soins pour les personnes.
La situation, c'est juste autour de Goma ou c'est au niveau de la province partout où il y a eu des affrontements?
C'est un peu la même chose dans la province. Hein. Voilà. Ce qu'on voit à Goma, c'est aussi ce qu'on voit dans le petit Nord Kivu, où on a des projets aussi à Rutshuru, à Bambou, à Kibirizi, à Binza, à Mweso.
Cette insécurité grandissante dans les camps impacte sur l'accès aux soins par les déplacés.
Oui, j'avais pris l'exemple qui, pour moi, est un exemple assez alarmant. C'est vraiment le cas des femmes enceintes la nuit. Donc il y a certaines femmes enceintes qui décident d'accoucher dans la hutte au lieu de se rendre dans une structure de santé parce qu'elles se sentent pas en sécurité pour aller dans une structure de santé. Et après, on a aussi des cas de femmes enceintes qui nécessiteraient une césarienne et qui du coup ne se rendent pas dans la structure à temps. Et donc là, ça a évidemment des conséquences qui peuvent être assez dramatiques. Donc pour nous, l'indicateur des femmes enceintes est un indicateur qui, en général, nous apporte beaucoup d'éléments sur le comportement de santé des bénéficiaires.
Toujours par rapport à cette insécurité dans les camps des déplacés, cela a conduit à l'accroissement des cas de violences sexuelles.
Oui, alors déjà avant cette crise dans la crise, hein, si on peut l'appeler comme ça, entre juillet 2023 et janvier 2024, on a vu une augmentation de 26% déjà des cas. Et quand on regarde simplement les chiffres du début d'année, entre janvier et février, on a déjà une augmentation de 34%, ce qui pour nous est assez considérable. Et évidemment, c'est amplifié par cette situation sécuritaire qui s'est dégradée.
Les violences sexuelles, on en parlait en dehors des camps, lorsque les femmes allaient prendre les bois. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ?
Comme on le disait, effectivement, il y a toujours des cas qui nous sont reportés de personnes, et c'est la majorité des cas, hein, essentiellement des femmes, mais pas que des femmes. On voit aussi malheureusement des enfants, des mineurs, et aussi des cas d'hommes. Mais la majorité des cas se passent pendant la collecte du bois. Ce qu'on observe récemment qui est assez nouveau, c'est à cause de cette insécurité dans les camps, il y a des cas qui nous sont reportés qui arrivent à l'intérieur des camps. 50% des cas nous sont reportés comme étant commis par des personnes armées. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est quoi le message des MSF pour la protection des camps, des sites, des déplacés ?
C'est pas le message seulement de MSF, évidemment, même si on peut difficilement parler au nom de tous les acteurs, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les clusters, parce que comme on le disait, ça a un énorme impact sur nos activités et donc du coup sur l'assistance humanitaire qui peut être apportée. Donc nous, on essaye de faire du plaidoyer auprès de toutes les autorités. On a fait beaucoup de plaidoyer par rapport à la présence d'artillerie lourde qui se situe proche des camps de déplacés et évidemment qui soumet nos équipes à un stress intense, mais aussi qui portent nos équipes, qui mettent nos équipes à risque. Donc on essaye de faire passer ce message. Comme je le disais, la semaine dernière, on a observé qu'il y avait un petit peu moins d'utilisation de l'artillerie. Voilà, on ne sait pas si nos messages ont été entendus, mais c'est les messages qu'on essaye de passer.
Marie Brun, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice des urgences chez MSF. Merci.
Merci.
L'augmentation de la violence et des déplacements met à rude épreuve les ressources dont disposent les PAM et l'UNICEF pour mettre en place une réponse globale comprenant de la nourriture, de l'eau potable, de bonnes conditions sanitaires, des abris sûrs, des soins de santé de base et des services de protection pour les femmes et les enfants. Ces agences onusiennes l'ont dit dans un communiqué rendu public la semaine dernière. Le PAM demande 300 millions de dollars pour les 6 prochains mois avec une rupture de ressources urgente à partir de mars. L'agence a besoin de 78 millions de dollars immédiatement pour combler cette lacune et poursuivre ses opérations. De son côté, l'UNICEF recherche pour les 6 prochains mois 400 millions de dollars américains. C'est pour son intervention d'urgence dans l'est du pays avec un besoin immédiat de 96 millions de dollars. Pour répondre à ces urgences et à de nombreux autres besoins humanitaires en RDC, le plan de réponse humanitaire 2024 a été lancé le 20 février. Un appel de fonds de 2,6 milliards de dollars américains est lancé pour aider quelque 8,7 millions de personnes dans le besoin à travers le pays. Le HCR a lancé pour sa part le 22 février un plan de réponse régional de 668 millions de dollars américains. C'est pour soutenir près d'un million de réfugiés dans les pays voisins.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien François Migabo Papi, chef de groupement de Kacheni à Kamanyola dans le sud Kivu. Il parle du Conseil local de sécurité de proximité CSLP, une structure du ministère de l'Intérieur appuyée par la MONUSCO à Kamanyola. Ce Conseil local de sécurité de proximité de Kamanyola a bénéficié de l'accompagnement de la mission onusienne, notamment par des ateliers de renforcement des capacités. Alors comment ce Conseil de sécurité fonctionne dans le groupement de Kacheni. François Migabo Papi nous en parle au micro de Rachel Kisimbango.
Monsieur François Migabo Papi, bonjour.
Bonjour madame.
Parlez-nous de ce cadre de sécurité qu'est le Conseil local de sécurité de proximité.
Le Conseil local de sécurité de proximité, en sigle le CLSP, c'est une structure de l'État, du ministère de l'Intérieur, mais qui a été installé avec l'appui du partenaire de la MONUSCO, ici chez nous à Kamanyola, mais le CLSP c'est au niveau de la chefferie. Tandis qu'au niveau du groupement, on parle du forum du groupement qui est composé par le chef de groupement qui est le président, également la police, la DGM, l'ANR, également les parquets aussi fait partie, et la société civile joue aussi un rôle du secrétariat. Donc, c'est une structure qui a été installée avec l'appui de la MONUSCO.
Comment avez-vous été accompagné pour le bon fonctionnement de ce cadre par la MONUSCO?
Nous avons été accompagnés par la MONUSCO via le ministère de l'Intérieur en nous renforçant surtout en capacité. Mais également, vous savez, il existe un outil très important aux autorités territoriales décentralisées qui est le guide à l'usage des autorités territoriales. Il y a des détails qui montrent les attributions de tout un chacun. Donc, chaque autorité connaît déjà ses attributions. Avec cet appui, la MONUSCO nous a renforcé capacité. Après avoir été renforcé en capacité, ils nous ont doté aussi de cet outil-là. Donc, chaque autorité qui était concernée a veillé cet outil-là. Et à part ça, on a veillé autant des ateliers, autant de formations, toujours appuyées par la MONUSCO. Il y a d'autres ateliers qui touchaient sur la sécurité pour améliorer aussi la capacité dans la zone. Et c'est là toujours en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, avec l'appui de la MONUSCO.
Parlez-nous concrètement de comment vous faites pour maintenir la sécurité dans votre entité à travers ce conseil local de sécurité de proximité.
Madame, lorsque il y a quelques choses qui ne marchent pas dans la zone, c'est notre obligation de pouvoir convoquer urgentement, parce que la loi prévoit que l'on puisse se rencontrer une fois le mois, mais au vu des urgences, quelquefois on se rencontre même quatre fois le mois. Donc s'il y a des soucis dans l'entité, nous devons nous réunir urgentement et voir comment trouver des solutions aux problèmes qui touchent surtout sur la sécurité. Et c'est pas seulement la sécurité, mais chaque problème qui touche sur nos communautés, par exemple les conflits entre éleveurs et agriculteurs, par exemple les conflits entre les différentes communautés, comme nous sommes dans une entité purement cosmopolite où il y a autant des ethnies, autant de communautés. Donc nous nous rencontrons et ensemble nous trouvons des solutions. Comme tantôt, c'est que j'ai dit aussi que la société civile fait partie aussi. Donc ensemble, on invite les parties concernées et on trouve des solutions à l'amiable, sans pour autant aller aux instances judiciaires par exemple.
Comment comptez-vous pérenniser les acquis de la MONUSCO, de votre collaboration avec la MONUSCO, surtout que la MONUSCO va se retirer, va se désengager de la province du Sud Kivu?
Oui, madame, je sais que la MONUSCO est en train de nous quitter sans le vouloir, mais c'est arrivé. Mais cela ne va pas aussi nous décourager, nous allons aussi par nous. Petit moyen pour renforcer encore de plus la sécurité, parce que vous savez, la sécurité, c'est une affaire de tous. Donc, nous allons inviter tous les leaders de notre entité de pouvoir s'approprier surtout la sécurité, également les chefs des avenues, les chefs des villages, chacun en ce qui les concerne, de pouvoir faire des alertes lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la zone. Il y a des numéros verts que la population ou que les gens peuvent appeler sans pour autant utiliser des unités. Et cela va aider d'autant plus les agents qui sont chargés de la sécurité. Même si la MONUSCO était là, bien sûr, on peut avoir autant d'éléments des FARDC, autant d'éléments de la police ou de la DGM ou de la ANR, mais sans l'appui de la population, ces services-là ne peuvent rien faire. Donc, nous continuerons toujours à demander un appui vraiment à la population de pouvoir accompagner ces services ayant dans leur attribution la sécurité.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Poursuite de la mission mixte MONUSCO au système de l'ONU et gouvernement congolais au Sud Kivu, à l'étape d'Ouvira, la délégation a pris part à une réunion du Conseil local de sécurité au cours de laquelle plusieurs préoccupations soulevées par les autorités civiles, militaires et policières et le Conseil de sécurité ont eu des réponses. La patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, Bruno Lemarquis ainsi que des représentants des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouvernement provincial du Sud Kivu et un conseiller du chef de l'État prennent part à cette mission d'information. Autre précision avec Fiston Goma.
Les représentants du gouverneur du site Kivu et ministre provincial des ITPR Gaston Sissawanumbe a expliqué que le processus de désengagement évolue progressivement dans la province pilote du site Kivu.
Évidemment, les préoccupations sont légitimes. Est-ce qu'il n'y aura pas de gap? Est-ce que cette sécurité qu'on était en train de bénéficier, est-ce qu'on va continuer à le recevoir? Et moi ici, nous sommes en tête du gouvernement pour rassurer notre population, nos communautés, que le gouvernement va devoir assimiler ses responsabilités dans différents domaines. Même si la MONUSCO est partie, il y a les systèmes des Nations Unies qui restent. Mais maintenant, c'est le moment pour notre population de compter sur leur gouvernement, d'avoir confiance au gouvernement et de dire merci à tout ce que la MONUSCO avait fait.
Madame Bitung Keïta, chef de la MONUSCO, a souligné que les priorités pendant la période de la transition seront axées sur la protection des civils, les droits de l'homme et la protection de l'enfant, ainsi que sur le programme PDDRCS et la communication.
L'objectif, c'est d'évaluer ensemble la mise en œuvre du plan de désengagement qui a été décidé l'année dernière et endossé par le Conseil de sécurité en décembre 2023. Pour l'instant, nous sommes en train d'être dans la bonne ligne de la mise en œuvre de ce plan de désengagement.
La délégation s'est rendue ce jeudi à Mikenge dans le haut plateau du secteur d'Itomboué où les déplacés internes posent encore un problème de sécurité dans leur zone de retour. Douvira Fistongo Momayaba, la Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Et quel serait le sort des milliers de déplacés dont la survie dépend dans la plupart des cas des bases de la MONUSCO après son départ? Est-ce qu'il y a une stratégie, il y a une suggestion ou quelque chose qui est prévu pour leur protection? Madame Bintou Keïta a répondu à cette interrogation. C'était lors d'une conférence de presse conjointe entre la chef de la MONUSCO et le gouvernement congolais à Kinshasa. Suivez.
La situation des personnes déplacées internes. Nous en avons presque maintenant 7 millions de personnes déplacées internes, dont si on regarde l'Est, c'est à peu près 5,5, si je ne me trompe. Hein, je regarde sous contrôle de mes adjoints. Et là, je crois que si le lieu, dans la volonté des bonnes résolutions de début d'année, de demander à ce que tous les groupes armés, mais vraiment tous les groupes armés, arrêtent et déposent les armes. Il y a le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation qui existe. Et je pense que l'accélération de la mise en œuvre aussi de ce programme, en dehors du théâtre qui est celui du Nord Kivu, sera tout aussi important pour améliorer les conditions, pas seulement en termes de prise en charge humanitaire, mais de faire en sorte que l'aspiration de ces personnes déplacées, c'est de pouvoir retourner chez eux, chez elles. Et ça, ça ne peut se faire que s'il y a la paix.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
De date à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 5 mars, c'est la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération d'armes. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiocapi.net. Et merci de votre attention. Merci également à Paul Badianyama pour la supervision technique, ainsi qu'à Jeff Opela pour la production, réalisation et coordination. Au micro, Babel Pongo Massimango. Retrouvons-nous dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.